Entre humus et soufre, entre sacralisation de la nature et sa gestion avide, y a-t-il une troisième voie? Le pasteur Didier Fievé nous invite à la réflexion.
Salut! Entre souffle et humus, nous parlons terre, nous parlons inspiration, nous parlons altérité, nous parlons alternative. Une fois par mois, 30 minutes pour réfléchir sur notre place dans le monde, à nous les humains, sur notre façon de comprendre, d'accueillir, de considérer, d'user et si possible de respecter la nature. Entre souffle et humus, pour vous servir. Je ne crois pas du tout à la formule qui dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Je ne crois pas du tout aux identités prescrites, pas plus qu'aux identités revendiquées et encore moins aux identités caricaturales produites par des préjugés idéologiques qui s'avèrent bien vite dictatoriaux. Une bonne part du rejet du discours écologiste, je le crois, tient à ce genre d'arrogance. J'ai une conviction fondamentalement protestante, bien que non exclusive évidemment, mais en tout cas une conviction libératrice. Je crois que notre identité est toujours à recevoir, gratuitement offerte. Je crois donc que notre identité excède toujours ce à quoi nous la réduisons. Je crois aussi que cette identité se décline de nombreuses façons, et parmi elles, nos engagements dans la cité. Nous évoquions, lors de notre dernière émission, le rôle de l'agriculture sur l'écosystème Terre, directement lié à notre façon de composer notre assiette, de la garnir et de la consommer. Mais de là à réduire la question écologique à un code du bien consommé, il n'en est pas question. Tout autant pour des questions d'efficacité, les prescriptions moralistes demeurent le plus souvent inefficaces, que pour des raisons politiques qui tiennent à la liberté, au refus de l'embrigadement, fut-il vertueux. D'un point de vue théologique, je dirais que c'est l'illustration de la différence entre une théologie des œuvres, qui consiste à bien agir pour bien vivre, et une théologie de la grâce, qui consiste à dire que l'on agit bien parce que ça nous est donné. C'est cette différence, cet écart, qui constitue à mes yeux le lit, l'espace de la liberté. Au carrefour entre libre engagement individuel et réflexion systémique, il y a une initiative montpelliéraine qui a retenu mon attention. C'est la Caisse commune alimentaire. C'est à Montpellier, et c'est du côté de celle-là.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra fort les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous nous peut-être grossirons la vie.
Mais ça le deviendrait si on échange un fond.
Aujourd'hui,
On n'a plus le droit d'avoir faim, dit la chanson. Curieuse association des mots. Curieuse ambiguïté qui laisserait croire qu'il est interdit d'avoir faim. Comme il est interdit de marcher sur la pelouse ou de voler un vélo. Avoir faim, ce serait un délit. Bien sûr, c'est parce que Coluche et ses enfoirés de copains ont voulu dire, bien sûr. Ce qu'ils ont voulu faire, c'était mettre la faim et la misère hors la loi. Et tant mieux. Mais demeure l'ambiguïté des paroles, qui juxtapose fin et droit. L'ambiguïté qui met en valeur que les Restos du Cœur, plus généralement toutes les œuvres caritatives, demeurent des aménagements du système de production et de consommation. Et que, en soulageant les pauvres, ces initiatives continuent aussi, à les marginaliser. Et plus même, elles finissent par rendre leur existence acceptable. Et de fait, ça fait plus de 30 ans que les Restos du Cœur existent, qu'ils sont toujours nécessaires et plus que jamais. Cherchez-les. Ne comptez cependant pas sur moi pour jeter l'opprobre sur Coluche et sur son initiative. Au moins a-t-il éveillé des consciences, soulagé des misères, mobilisé des énergies dans un vaste élan de générosité, et c'est tant mieux. Mais ça demeure un cautère sur une jambe de bois. Ça reste palliatif, et d'une façon provocatrice, j'espère que vous me pardonnerez, je dirais, ça prolonge l'agonie. En 2017, au sein de l'association Ingénieurs sans frontières, il y a eu des agronomes qui ont lancé une réflexion autour des questions de souveraineté alimentaire. Ce fut une réflexion menée en premier lieu par un chercheur, Mathieu Dalmet, rejoint ensuite par Bernard Friot, qui a médiatisé les résultats. Et tous ces chercheurs et chercheuses aboutissent à un triple constat. Premièrement, on ne changera pas le système agricole sans la mise en œuvre de politiques alimentaires nouvelles. Vous savez, c'est un peu la question du chat qui se mord la queue. Produire ce qui est demandé par les populations, c'est ce que prétend faire l'industrie agricole. Et de l'autre côté, il faut admettre que les populations ne peuvent consommer que ce qui leur est proposé. Les goûts et les habitudes alimentaires conditionnent les choix agricoles, mais les choix agricoles déterminent en retour les goûts et les préférences. L'appétence pour le sucre appelle une industrie betteravière florissante, laquelle instille du sucre dans des aliments qui s'en passeraient fort bien. Et tout cela avec le recours massif à des insecticides qui polluent tout, de la terre, de l'eau, qui tuent les abeilles. Enfin, j'en passais des meilleurs. Prétendre que la filière bio ou les circuits courts constitue une alternative capable de remettre en cause le système agroproductiviste, c'est un leurre. Car les modes de production les plus vertueux, celles qui font vivre ces alternatives, louables, sont loin pourtant d'être accessibles à toutes et tous. Deuxième constat, il ne suffit pas de développer des programmes d'aide alimentaire. Des chercheuses et des chercheurs tels Dominique Paturel, Magali Ramel, puis bien des associations comme ATD Quart Monde, des réseaux, des collectifs, nombreux, variés, localement implantés dans toutes les régions de France, rejoints ensuite par la Confédération Paysanne, ont souligné la nécessité de la création d'un droit à l'alimentation. Comme on avait connu le principe d'un droit aux soins qui avait présidé à la création de la sécurité sociale. On ne chantait plus ou on ne chantait pas. On n'a plus le droit d'être malade. On proclamait haut et fort, on a droit à être décemment soigné. Eh bien, de la même façon, il ne s'agit plus de dire on n'a plus le droit d'avoir faim, il s'agit de dire on a droit, tout le monde a droit à une alimentation durable. Troisième constat. Il faut imaginer un système de sécurité alimentaire, je le disais à l'image de la sécurité sociale, c'est-à-dire avec une universalité des droits, avec un financement par des cotisations et avec une administration démocratique. C'est le trépied sur lequel reposait la Sécu. On rencontre, ou plutôt une rencontre, avec le réseau Salariat et puis la Confédération Paysanne a conduit à mettre en avant l'idée d'un salaire paysan à vie, avec cette idée que ça donnerait aux paysans un statut à peu près équivalent au médecin libéral dans le monde de la santé. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de démocratie alimentaire. Je vais le dire de façon un petit peu plus violente, un petit peu plus clivante, mais au fond, il faut bien aller jusqu'au bout du raisonnement et du processus. En un mot, comme l'écrit le site de la Caisse commune alimentaire de Montpellier, l'agriculture capitaliste est basée sur la recherche d'un profit financier sans limite. Les investisseurs qui la pilotent n'ont pour finalité ni de nourrir les humains, ni de faire vivre les travailleurs des filières agricoles. Et même si cette agriculture capitaliste se pare parfois des atours de la durabilité, le respect réel des équilibres écologiques lui est totalement étranger. Et d'ailleurs, elle ne nourrit, cette agriculture capitaliste, qu'une minorité de la population mondiale, alors qu'elle occupe et qu'elle appauvrit plus de la moitié des terres cultivables ou pâturable sur la planète. Je cite le site. Les inégalités d'accès à l'alimentation en Europe, mais aussi dans tout le reste du monde, sont étroitement liées aux finalités de l'agriculture capitaliste, intensive, productiviste. Et le fameux dilemme fin du monde, fin du mois n'en est pas un, parce qu'au fond, l'un et l'autre participent de la même logique. C'est une dénonciation clairvoyante et c'est une dénonciation courageuse. Et partout en France, des initiatives locales, des groupes, des collectifs, des associations voient le jour. Elles échangent, oui, ils échangent, débattent, constituent des réseaux, mettent en place des structures concrètes. Structure modeste, une petite épicerie d'un côté, structure plus large, une caisse ici. Structure parfois marginale aux yeux du grand public, dérisoire aux yeux de l'économie agricole en général. Mais elles ont un double avantage, elles disent et elles font. Elles disent, c'est-à-dire qu'elles débattent, elles regroupent, elles fédèrent, elles font circuler la parole, et elles font, elles expérimentent, elles organisent, elles produisent, elles partagent. Elles génèrent une réalité sociale autre. Elles proposent des alternatives réelles. Et ainsi, elles mettent en avant, en lumière, des réussites, des écueils, et des échecs. Bien sûr, ces structures sont toutes petites par rapport aux chiffres d'affaires des super et des hypermarchés. Et surtout, elles concernent finalement peu de gens. Et peut-être pourrait-on même leur objecter que elles ne peuvent fonctionner que parce que justement elles sont petites. Tous ceux et toutes celles qui ont eu maille à partir avec la bureaucratie d'un guichet de sécurité sociale savent de quoi je parle. C'est vrai que quand c'est trop lourd, quand c'est trop gros, ça devient anonyme, ça devient rouleau compresseur. N'empêche. Et pour continuer cette analogie avec la santé publique, je dirais que il n'empêche pas que la santé publique a progressé de façon magnifique avec l'avènement de la Sécu. Et en ce qui concerne la santé, l'intuition utopiste de ses fondateurs s'est avérée être une grande idée, pourtant bien décriée les premières années. Et s'il en était de même pour une sécurité alimentaire ? Beaucoup de gens pour qui l'écologie relève de choix personnels, de responsabilités individuelles. Et sans doute ont-ils raison. Mais je crois qu'ils n'ont raison que pour une part seulement. Parce que bien sûr, tout changement collectif requiert une participation, voire un engagement citoyen délibéré et actif. La République ne fonctionne bien qu'avec l'assentiment et l'engagement des citoyens. Mais en retour, il y a bien des initiatives, bien des progrès sociaux. Il y a un nombre d'idées qui échouent de se heurter à l'hostilité, à la rigidité d'un système politique global. L'écologie est aussi et peut-être d'abord politique. Non seulement parce qu'elle mobilise des idées, des questions, des moyens, mais parce qu'elle suppose une finalité à l'économie autre que le seul profit. L'écologie suppose de considérer la nature, le monde, la vie, les rapports sociaux d'un point de vue autre que du point de vue du prédateur. Et en cela, l'écologie est hautement politique. Le changement de mode de vie se heurte nécessairement à un système économique fondé sur la rivalité et l'hostilité qui anime le monde des affaires. Qu'on songe tout le temps que si certains font de bonnes affaires, c'est parce que d'autres en font de mauvaises. La marchandisation du monde, des biens naturels, et l'eau en est un très bon exemple aujourd'hui, bientôt demain de l'air et de la lumière. La marchandisation du monde, la marchandisation de ces biens communs naturels marque la nature d'une empreinte mortifère, irréversible à l'échelle de la vie humaine. Il n'y a pas une écologie de droite et une écologie de gauche. l'écologie est foncièrement une dénonciation anticapitaliste. Une rupture avec la culture du profit sans limite, avec la culture du profit sans règles, sans morale, que chérissent tant les capitalistes du monde entier. Pour ma part, il m'apparaît de bon ton que cette remise en cause idéologique ne s'incarne qu'en des initiatives modestes, balbutiantes peut-être, mais concrètes, à portée de citoyens. Utopie ? Ben peut-être pas tant que ça, puisque c'est ici, c'est à Montpellier, c'est à Seine-Neuve. Comment ça marche ? C'est juste une caisse, alimentée par des cotisations indexées selon les moyens de chacune et de chacun. Convertie en monnaie solidaire locale, ces cotisations constituent cette caisse commune qui va permettre aux habitants volontaires de dépenser chaque mois 100 euros dans des lieux de distribution alimentaire ouverts à tous, choisis par le comité, qui seront des épiceries, des magasins, des groupements d'achat, qui respectent des critères élaborés par le comité local. Et les gens peuvent ainsi accéder à des aliments sains, produits dans des conditions respectueuses de l'environnement et contribuer au développement de circuits de production et de distribution durables en termes de santé, d'environnement, d'accessibilité, d'économie de travail. Au fond, ce n'est pas seulement une caisse, c'est un laboratoire. Et après tout, à vous de voir. Allez donc sur votre ordi, tapez « Caisse commune de l'alimentation de Montpellier ». Allez à Seine-Neuve. L'utopie à portée de main. une petite musique qui enfle, comme le Boléro, jusqu'à l'explosion. Et utopie pour utopie, j'aimerais partager avec vous une petite méditation autour d'un passage biblique bien connu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20. C'est l'histoire d'un propriétaire d'une vigne. Il embauche des ouvriers à 6 heures du matin, il se met d'accord avec eux pour un salaire d'un denier. Il en embauche d'autres à 9h, à 11h et même à 5h du soir. Et il leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes restés là à ne rien faire ?»« Ben, c'est parce qu'on ne nous a pas embauchés. » Alors il les envoie travailler eux aussi dans sa vigne. Arrivent les 6 coups au clocher du village qui marquent la fin de la journée de travail. Le maître invite son intendant à procéder à la paie et il doit payer en commençant par les derniers. Et voilà que ces derniers ouvriers, ceux de la 11e heure, reçoivent un denier. Alors, les ouvriers de la première heure se frottent les mains en disant « Chouette, on va gagner plus que prévu !» Mais que nenni ! Ils reçoivent eux aussi un denier. Alors ils rouspètent, c'est pas juste, on a transpiré tout le jour, on a trimé, et ceux-là, ils arrivent les derniers, ils travaillent tout juste une heure, et voilà qu'ils gagnent autant que nous. Non, c'est pas juste. On va faire un syndicat. Peut-être qu'ils ont raison. En tout cas, le maître leur répond, mais écoutez les gars, je vous ai pas fait de tort. Je ne vous ai volé en rien. Si vous êtes en colère, c'est juste parce que vous ne voyez pas d'un bon œil que je sois bon. C'est juste que vous ne voyez pas d'un bon œil que ça puisse être gratuit. Alors Matthieu nous dit que Jésus raconte cette parabole pour décrire le royaume des cieux. Je ne parle pas du paradis après la mort, non, je parle du royaume des cieux, c'est-à-dire ici, à ras de terre, à ras de sol, on dirait, pour des vignerons argilo-calcaires ou schisteux, ça dépend des vignobles. Le royaume des cieux, c'est une autre vision du monde. J'ai pas mal prêché sur cette parabole, enfin je veux dire, assez souvent. Et j'ai souvent dit qu'il ne s'agissait pas d'un programme social ou économique, mais plutôt de la vision d'une autre économie, où personne n'est évalué selon ses œuvres. L'être humain reçoit son identité, sa légitimité, sa dignité, non pas parce qu'il le vaut bien, comme dit la pub, mais parce qu'il est fondamentalement, depuis toujours et pour toujours, accueilli sans condition, au bénéfice d'un amour gratuit, heureusement gratuit, parce que s'il en tenait seulement à ses mérites, la vie serait un bagne. Mais peut-être que j'ai trop peu insisté sur cette évidence première du texte, que j'appellerais le droit à vivre. Le droit à avoir des moyens de subsister. Ce que dit ce texte profondément, c'est que chacun, chacune, a un droit fondamental, accéder aux moyens de vivre. Il y a quelque chose de profondément politique, de profondément subversif dans ce récit. Parce que c'est dire que la grâce s'incarne, mais qu'elle s'incarne à égalité pour toutes et pour tous. Concevoir la terre, concevoir la nature et ses ressources, non pas comme la propriété de quelques-uns riches, mais comme un don à partager entre nous tous, ça, c'est une petite révolution, non ? Une caisse de sécurité alimentaire, où le partage irait de pair avec des choix respectueux de la nature. Est-ce que ça n'aurait pas un côté évangélique ? Bon, ça reste le royaume des cieux, je vous le concède. Une vision, un élan qui vient travailler le monde. Ça doit demeurer un chemin, pas une arrivée. Parce que à chaque fois qu'un paradis prétend arriver sur terre, il se transforme en goulag. Trop dangereux. Mais une vision, un élan, une mise en chemin qui vient travailler le monde et nos consciences. Ce serait peut-être un peu évangélique, non ? Allez, salut. Au mois prochain, si vous voulez bien.